Merci pour toutes ces informations. On se retrouve, nous, pour revivre 7 jours d'actualité avec la rédaction.
Une semaine d'actualité.
Nous sommes en compagnie de Bertrand Badi, spécialiste des relations internationales, co-auteur de L'État du monde, une institution dont la dernière édition 2015 s'intitule Nouvelle guerre. Dans un instant, nous partirons pour la Guinée et la Centrafrique. Mais arrêtons-nous d'abord en France, à noter une légère baisse du nombre de chômeurs en août, moins 11 000 personnes, et le retour de Nicolas Sarkozy qui veut révolutionner l'UMP, dit qu'il a changé et promet des primaires avant la prochaine élection présidentielle. Autre chose, les trois djihadistes présumés dont l'arrivée en France en provenance de Turquie a fait l'objet d'un gros cafouillage, on peut dire les choses comme ça, ont été placés en garde à vue après s'être rendus. Les trois hommes avaient atterri à Marseille en provenance de la Turquie sans être interpellés par les forces de l'ordre. Au début de la semaine, Anthony Favalli.
Un avion intercepté sur le tarmac à Paris et trois djihadistes en liberté à Marseille. À l'origine d'un tel couac, des dysfonctionnements en chaîne. Un commandant de bord qui refuse d'embarquer les suspects depuis la Turquie. Ankara qui n'avertit pas la France de leur changement d'avion. Et manifestement, selon le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, une communication à revoir entre les deux pays.
J'aurai donc dans les prochaines heures un contact avec mon homologue turc et je me rendrai prochainement en Turquie de manière à ce que nous puissions, dans le respect rigoureux du droit turc et de nos procédures judiciaires en France, procéder aux corrections qui doivent l'être.
Mais ce n'est pas tout. À Marseille, au moment de leur arrivée, les suspects passent les douanes sans encombre. Le système Kéops de contrôle des passeports est en panne.
J'ai demandé à ce qu'il y ait une inspection de l'inspection générale de l'administration et de l'inspection générale de la police nationale. Je souhaite qu'elle puisse m'être communiquée dans les meilleurs délais, de manière à ce que le Parlement puisse disposer de ces éléments.
Un fiasco qui aurait pu mal se finir. Les djihadistes présumés se sont finalement présentés d'eux-mêmes à la gendarmerie. Ils ont depuis été placés en garde à vue.
Reparlons de la guerre, Bertrand Badi, de l'offensive de la France contre l'organisation de l'État islamique en Irak, Olivier Four.
En 8 jours d'opération, la France a officiellement mené 2 raids sur des positions de l'organisation de l'État islamique en Irak. Le premier jour, le 19 septembre, lorsque des avions ont frappé un dépôt logistique dans la région de Mossoul. Et ce jeudi, lorsque 2 rafales ont ouvert le feu sur des bâtiments à l'ouest de Bagdad, à proximité de la ville de Fallujah. Une tonne de bombes a été larguée sur 4 hangars qui contenaient vraisemblablement de l'armement, indique une source militaire à Paris. L'ordre de tir est venu du commandement des forces françaises dans la zone de l'océan Indien, basée à Abu Dhabi, indique le ministère de la Défense. À Paris, l'état-major français assure que ces frappes sont réalisées sous contrôle national, mais en coordination avec les alliés dans la zone. D'ailleurs, la France vient d'envoyer des officiers au sein du centre de coordination aérienne de la base américaine d'Al Udeid au Qatar, alors qu'au Koweït, l'état-major central des forces américaines doit accueillir les représentants des différents pays contributeurs. Enfin, la présence d'officiers français insérés dans les structures de commandement de l'armée irakienne n'est pas à exclure.
Revenons maintenant sur la mort d'Hervé Gourdel. Elle a choqué les Français de France, évidemment, et ceux qui vivent hors de France, au Mali, par exemple, qui, rappelons-le, partage une frontière au nord avec l'Algérie et connaît aussi les attaques de groupes djihadistes dans le nord du pays, donc du Mali. Correspondance de David Bachet, mercredi.
Quentin Chaudieu est informaticien à l'ambassade de France, à Bamako. S'il continue de se sentir globalement en sécurité dans la capitale malienne, la décapitation d'Hervé Gourdel en Algérie lui inspire de nouvelles craintes.
C'est vrai que ça rassure pas parce qu'on est quand même dans des pays qui sont à risque, sachant qu'il y a des présences de groupes, qu'on sait jamais trop à quel endroit ils sont, que c'est des gens qui agissent rapidement, qu'on est vite repéré du fait du peu de touristes aussi. C'est vrai que c'est pas rassurant de ce côté-là et que lors des déplacements, faut rester très vigilant, je pense.
Alexia Frangel est institutrice. Après y avoir déjà séjourné récemment, elle vient de s'installer au Mali. Pour elle, cet acte, aussi barbare qu'il soit, ne change pas la donne.
Vu ce qui s'était passé avant, on pouvait s'attendre à quelque chose comme ça. Vu le contexte au Moyen-Orient et ici, oui, on peut toujours s'attendre à ça, en fait.
Ça va changer quelque chose? Est-ce que ça vous fait peur?
Non. Non, ça ne me fait pas peur. On sait très bien qu'il y a toujours le risque, mais c'est pas pour autant que je me sens en insécurité, en fait. Non, ça ne va pas changer. Je vais toujours me promener toute seule ou dans Bamako.
Les autorités françaises avaient déjà appelé leurs ressortissants à une vigilance renforcée au Mali. Aucune nouvelle consigne n'a été donnée après l'assassinat d'Hervé Gourdel.
Une semaine d'actualité, nous sommes toujours en compagnie de Bertrand Badi. Nouvelle guerre, l'état du monde 2015 vient de sortir. Vous avez beaucoup d'admirateurs, Bertrand, beaucoup d'auditeurs nous ont envoyé des courriels. Je pense notamment à Boubacar qui est à Niamey au Niger et il vous pose une question. Je voudrais demander à vous Bertrand Badi ce qu'il pense de cette campagne qui demande aux musulmans de France de sortir publiquement pour se désolidariser des actions de Daesh, comme si on demandait à chaque Français de sortir publiquement pour se désolidariser de l'idéologie du Front National.
Je pense que notre ami a tout à fait raison. Il a tout à fait raison.
Alors il faut rappeler que les musulmans se mobilisent ce week-end pour manifester leur effroi aussi après la mort d'Hervé Gourdel.
Il faut rappeler qu'il y a un quotidien du matin qui a cru utile de faire et diffuser un sondage dans lequel on demandait à l'opinion publique française, aux Françaises et aux Français, s'ils considéraient que les musulmans avaient suffisamment condamné cet acte odieux dont nous parlons depuis le début de l'émission.
Ce quotidien, pour être clair, c'est le Figaro. D'ailleurs, la société des journalistes du Figaro s'est mobilisée.
C'est ému de ce genre de choses. Parce que c'est en partie là que tout se joue. Si nous décrétons que tout musulman peut être soupçonné d'une forme quelconque de rapport et de relation avec cet événement tragique, nous donnons immédiatement à l'ensemble des événements tragiques que nous vivons actuellement une coloration terrible. C'est-à-dire, nous la présentons comme étant une confrontation de civilisations. Il y en a d'ailleurs qui aiment ça, il y en a qui s'en régalent. Il y a des entrepreneurs de conflits de civilisations. Je parlais d'entrepreneurs de violence. Il y a aussi des entrepreneurs de conflits de civilisations. Nous stigmatisons toute une population. Nous créons ce qui est de plus odieux dans la morale publique, l'idée d'une responsabilité collective. C'est comme si nous reprochions à nos amis allemands leur passé nazi, et ainsi de suite. Et pourquoi ne faudrait-il pas que les évêques de France organisent des cortèges dans la rue à chaque fois qu'a été commis un acte inadmissible par un chrétien sous prétexte que l'ensemble des chrétiens seraient en cause. Je pense même qu'il faut aller un petit peu plus loin pour que les choses soient claires. Je suis profondément ému quand je vois les manifestations spontanées de solidarité qui, depuis cette tragédie, se développent un peu partout en France. Mais je pense qu'il ne faudrait pas qu'il y ait organisation de manifestations communautaires. De temps en temps, on entend dire, y compris de la part des pouvoirs publics, qu'il ne faut pas communautariser ce conflit. Mais on fait tout pour communautariser ce conflit. Et alors là, c'est terrible. Tout à l'heure, je disais que la grande erreur d'entreprendre une action militaire otanesque en Irak, c'est justement ce spectre d'une opposition nord-sud, d'un conflit nord-sud, cette transformation d'un conflit interne à l'Irak en conflit nord-sud. Eh bien, c'est un peu aussi ce que nous faisons dans notre quotidien lorsque nous demandons des comptes à la population musulmane. Et je dis, moi, à mes amis musulmans, qu'ils ne doivent pas se sentir concernés par ce genre d'appel.
En tous les cas, puisque nous parlons un peu de la France dans cette émission, à ce niveau de l'émission, que les Français ont l'impression, c'est pas une impression, de vivre dans un état de guerre depuis un petit moment.
Et hélas, pas vous, pas RFI, mais combien de vos confrères font des éditions spéciales pour nous expliquer, j'ai entendu un journaliste sur une chaîne périphérique hier dire il faut que la France se fasse peu à peu à l'idée qu'elle est en état de guerre. Or, encore une fois, de toute manière, le mot est mal choisi, car même si les choses évoluent au plus tragique, ce ne sera pas une guerre, parce que la guerre ce n'est pas ça, il faut bien le comprendre, et donc il faut gérer cette situation différemment, et de toute manière, il faut, c'est la première chose à faire quand il y a un conflit, en comprendre les racines, d'où ça vient, et que pouvons-nous faire? De ce point de vue-là, la dynamique de cette situation conflictuelle nous reste largement extérieure, sauf effectivement si nous faisons nos examens de conscience et que nous voyons que, d'un certain point de vue, ce désordre tient à une gestion très curieuse et très occidentalocentrée du monde depuis le début du 19e siècle.
Thank you. Suite d'une semaine d'actualité, merci de votre fidélité. Nous sommes toujours en compagnie de Bertrand Badie. Nous allons partir pour l'Afrique. Évidemment, maintenant, le président de la Sierra Leone a annoncé, par exemple, jeudi, la mise en quarantaine de 3 provinces sur 14 et de 12 chefferies où vivent un peu plus d'un million de personnes, sans préciser d'ailleurs la durée de cette mesure. Deux provinces de l'Est, aux confins de la Guinée et du Libéria, épicentre de l'épidémie, nous parlons d'Ebola, bien sûr, étaient déjà en quarantaine depuis le mois d'août. Et ces mesures interviennent moins d'une semaine après un confinement de toute la population du 19 au 21 septembre dernier. Mélissa Chemam.
Pour les ONG partenaires et les agences de l'ONU, la quarantaine reste une mesure nécessaire. Selon Festus Mina, représentant du mouvement de la société civile en Sierra Leone, même si le gouvernement fait face à de nombreux défis, comme le manque de moyens pour collecter les corps des victimes ou pour surveiller les populations des villages, la quarantaine est bien efficace. Selon l'UNICEF, qui coordonne les activités de l'ONU dans ces régions, les principaux défis sont que ces zones sont désormais impraticables. Toutes les voies de circulation et transmission sont interrompues, ce qui induit des problèmes supplémentaires. Le manque de réserves alimentaires d'abord, la fuite de certains villageois en brousse, car ils veulent continuer de labourer leurs champs en cette période cruciale précédant les premières récoltes. Et enfin, les difficultés des patients guéris dans les centres urbains à rentrer chez eux dans les villages. L'ONU soutient néanmoins au mieux de ses possibilités cette méthode pour enrayer la propagation du virus. Le PAM met par exemple en place des systèmes de distribution alimentaire en porte-à-porte.
Vous le savez, la riposte anti-Ebola s'organise aussi en Guinée. Un exemple sur les marchés de Conakry avec notre envoyé spécial Olivier Roger mardi.
Yimbaya est un immense marché dans la banlieue de Conakry. C'est ici, dans cet univers grouillant et à la salubrité plus que douteuse, que les commerçants venus de la Guinée forestière écoulent leurs marchandises. Depuis l'épidémie d'Ebola, le quartier a connu plusieurs cas de malades, tous venus de la région forestière. Derrière les étals, les commerçantes ne cachent pas leur peur.
Ah, nous avons peur d'Ebola. On lave les mains toute la journée, on lave les mains d'ici.
Les autorités ont désormais interdit la viande de brousse, comme le singe, que l'on ne trouve plus à Yimbaya. De même, les responsables du marché, comme Madame Camara, imposent aux camionneurs venus de la forêt des mesures d'hygiène.
Ah, on n'a pas peur. Ah, parce que chaque fois quand ils viennent, on est protégé. On les oblige de laver leurs mains avec de l'eau de Javel, avec le savon. Dès qu'ils viennent, on les fait rentrer dans le bureau, ils se lavent avec l'eau de Javel. À chaque marché, on pose 10 seaux devant la devanture du marché.
Reste que ces fameux seaux d'eau chlorée ne sont pas faciles à trouver à Yimbaya. L'ambiance est cependant à la méfiance et les commerçantes forestières, même celles qui vivent à Conakry depuis toujours, ne veulent pas témoigner de peur de la stigmatisation.
Et la mission pour la réponse d'urgence à Ebola, créée par les Nations Unies pour coordonner la réponse à la progression de l'épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest, va commencer son travail sur le terrain demain dimanche, suite d'une semaine d'actualité. Et je vous sens très désireux, Bertrand Badie, de réagir à cette triste, sinistre, tragique propagation du virus Ebola.
Oui, moi c'est quelque chose qui me touche beaucoup. Humainement, bien sûr, et puis aussi en tant qu'analyste des relations internationales. Ebola, c'est une des souffrances terribles qui pèse sur les épaules de nos amis africains. C'est un effet aussi dérivé de la mondialisation et d'une mondialisation mal gérée et mal gouvernée. C'est un effet aussi de l'insuffisance de sécurité humaine en Afrique. Donc, c'est un effet de responsabilité collective. Et donc, c'est quelque chose qui, pour le bien de tous, ne peut être traité que par la solidarité internationale. Mais au sens fort du terme solidaire. C'est-à-dire, ce qui le fait souffrir, lui, me fait souffrir moi directement. Alors, il y a des gens absolument remarquables. Ces médecins, ces infirmières qui partent, qui reviennent atteints par la maladie. Vraiment, on ne peut que s'incliner devant de pareils héros. Mais un petit fait m'a profondément scandalisé. Parce qu'il montre exactement ce que c'est que la négation de la mondialisation. C'est ce syndicat d'Air France qui a imposé à la direction de la compagnie de suspendre les vols sur Freetown. Sous prétexte que le personnel navigant pourrait en souffrir. On sait que le risque statistique de contracter Ebola lorsque l'on est personnel navigant sur une compagnie aérienne est asymptotiquement nul. Il est inférieur au risque de traverser la rue à Paris.
C'était bien sûr avant la grève des pilotes.
Bien entendu avant la grève des pilotes, qui est peut-être l'expression d'un autre type d'égoïsme. Mais
Voilà l'image qu'il faudrait mettre sur la couverture d'un ouvrage sur la mondialisation. C'est-à-dire que la mondialisation nous oblige à la solidarité. C'est même pas une question de charité ni de cœur, c'est une question d'utilité. La mondialisation nous oblige à la solidarité. Et là, la seule réponse audible que l'on a vue de pouvoir constituer en Europe, c'est d'interrompre les relations aériennes. C'est scandaleux. C'est scandaleux. Il faudrait créer un prix Nobel de la violence pour pouvoir l'offrir à ces gens-là.
Une semaine d'actualité.
Et nous allons partir cette fois pour la Centrafrique avec d'abord la décision de la procureure de la Cour pénale internationale d'ouvrir une enquête sur les crimes commis dans le pays depuis 2012. Écoutez ce que disait Fatou Bensouda mercredi sur le site de la CPI.
Aujourd'hui, j'annonce que j'ai pris la décision d'ouvrir une deuxième enquête en République centrafricaine concernant des crimes présumés commis depuis 2012. Les informations en ma possession fournissent une base raisonnable permettant de croire que la SELECA et les groupes anti-Balaka ont commis des crimes contre l'humanité et des crimes de guerre, notamment le meurtre, le viol, le déplacement forcé, la persécution, le pillage, les attaques contre les missions d'aide humanitaire et le fait de faire participer des enfants âgés de moins de 15 ans à des hostilités. La liste des atrocités commises est interminable. Je ne peux pas ignorer ces crimes présumés. Mon bureau va désormais s'atteler à recueillir directement les éléments de preuve afin d'identifier les auteurs de crimes les plus graves et d'engager des poursuites à leur encontre.
Alors, en Centrafrique, la mission des Nations Unies, la MINUSCA, est entre autres de rétablir le système judiciaire alors que les magistrats tentent, vaille que vaille, de faire leur travail. Reportage de nos envoyés spéciaux Laurent Corot et Bertrand Éclair à Bangui.
Les avocats et les simples justiciables vont et viennent dans le hall du palais de justice. Les audiences se tiennent. En apparence, Bangui, la capitale, dispose toujours d'un secteur judiciaire actif. Mais dans les faits, les juges centrafricains vivent dans la crainte permanente de représailles. Au parquet, un magistrat reconnaît que pendant très longtemps, les dossiers de flagrant délit liés au groupe armé ont soigneusement été laissés de côté, faute de protection. Quant au président du syndicat des magistrats, Parfait Rodrigue Yangandia, il estime que les conditions ne sont pas réunies pour que la justice soit rendue.
Le juge centrafricain travaille la peur au ventre. Au niveau des palais de justice, par exemple, il y a quelques éléments de la MINUSCA qui sont là-bas pour garder les lieux. Ça, c'est déjà bien. Mais le juge ne travaille pas seulement qu'au palais de justice. Et donc, lorsque vous rendez une décision de justice, en rentrant chez vous à la maison, vous pouvez être agressé. Les conditions de sécurité sont déplorables et ne permettent pas aux juges centrafricains de travailler dans les conditions idoines.
La mise en place d'un cadre sécurisé de travail est d'autant plus importante que la criminalité ordinaire a augmenté avec la crise. Parallèlement aux actes des groupes armés, la petite délinquance a progressé, explique un juge. Certaines personnes, dit-il, pensent que la justice n'existe plus et qu'on peut faire ce qu'on veut sans être attrapé.
Pour réagir à l'actualité, semaine.actu@rfi.fr.
Merci pour vos courriels qui nous font toujours plaisir. Écrivez-nous aussi à la page Une Semaine d'Actu de Facebook, comme l'ont fait quelques auditeurs. J'en salue quelques-uns. Bonjour notamment à Raymond à Ottawa, à Mamadou et Constantin à Dakar. Bonjour à Rick au Cap, à Belinda à Kinshasa. Et un bonjour à Chiaka, bonjour et mes hommages à la France et à la famille d'Hervé Gourdel, écrit-il. L'islam est contre la violence, nul n'a le droit d'ôter la vie d'autrui. Je suis vraiment consterné, le mot me manque. Bonne semaine à tous, Chiaka Chérif depuis les abords du fleuve Djoliba à Bamako.
Sept jours en Afrique.
Toujours en compagnie de Bertrand Badie, dans votre analyse des affaires du monde, Bertrand Badie, vous placez toujours, vous n'oubliez jamais plutôt l'Afrique. Dans cette réflexion sur les nouvelles guerres, vous dites que certes les guerres sont arrivées au Nord, intéressent les pays du Nord, mais longtemps elles n'ont intéressé, on a fait la guerre que dans le Sud, et ça dans l'indifférence générale des pays occidentaux, entre guillemets.
Oui, d'abord il faut s'intéresser à l'Afrique parce que lorsque nous arriverons au terme de notre vie, il y aura un être humain sur quatre qui sera africain. On ne mesure pas du tout, et moi ça m'étonne, les formidables tensions sociales qui marquent l'Afrique aujourd'hui et qui sont pour beaucoup dans la conflictualité qui se généralise. Oui. Regardez la carte des indices de développement humain en Afrique. Regardez à côté la carte des conflits en Afrique. Vous verrez que c'est pratiquement la même. C'est-à-dire cette énorme bande du Grand Sahel qui va de la Mauritanie jusqu'à la Corne de l'Afrique, c'est aussi une zone de très faible niveau de développement humain, c'est une zone de très faible institutionnalisation. Ça, c'est de la responsabilité de tous. N'avoir pas réussi, après 50 ans de décolonisation, ne pas avoir réussi à construire un développement humain décent en Afrique. Et surtout, non seulement ne pas avoir réussi à construire des institutions en Afrique, mais le fait que tout le monde, au Nord et au Sud, ait profité de la sous-institutionnalisation africaine, nous place maintenant face à la pathologie la plus effroyable que l'humanité ait connue, c'est-à-dire la naissance de ce que j'appelle des sociétés guerrières, c'est-à-dire des sociétés qui vivent grâce à la guerre, qui vivent par la guerre.
En permanence.
En permanence. Regardez la République démocratique du Congo. Ça fait quand même 54 ans qu'elle est en guerre.
Et vous notez d'ailleurs que quelques mois seulement après la déclaration d'indépendance, il y avait déjà un conflit dans le Kasaï.
Que quelques semaines. Mmh. Quelques semaines. Et c'est par millions de morts que l'on doit chiffrer les victimes anonymes qui nourrissent toutes les indifférences au Congo. Il y a eu un moment où l'Europe a pris une initiative courageuse à travers l'opération Artemis. Il y a eu un moment où le Conseil de sécurité a jeté un petit regard sur le Congo. Juste le temps de remarquer que c'est une zone qui est très riche en minerais et que ce serait pas mal de participer à des opérations de maintien de la paix. Et on a vu des ingénieurs minéraliers de différentes grandes puissances s'engager avec des casques bleus sur la tête, mais nous laissons l'Afrique se métamorphoser en société guerrière. Le Congo est une société guerrière, la Somalie est une société guerrière, la République centrafricaine est une société guerrière, le Mali reste potentiellement une société guerrière, c'est-à-dire que rien dans les racines du conflit Mali a été résolu.
Avec quand même un État, contrairement à ce qui se passe en Somalie, par exemple.
Avec un État, mais un État qui n'est pas pressé à réaliser ce travail d'intégration des minorités, d'intégration sociale, de traitement de ce sous-développement humain, avec des bandes armées et des milices qui, pour l'essentiel, se sont retirées dans les pays voisins. Ceux qui sont restés au sol, c'est les enfants soldats, hein. Faut quand même pas oublier que sont les principales victimes de cette opération. Est-ce que en tuant des enfants soldats, on peut véritablement résoudre un conflit? Je ne pense pas. Donc, ce qui me fait peur pour l'Afrique, c'est qu'elle devienne une gigantesque société guerrière. Des pays sur la stabilité desquels on misait autrefois, je pense à la Côte d'Ivoire, à l'image que dans les années 60 on avait de la Côte d'Ivoire et du miracle ivoirien, c'est une société qui a vécu comme société guerrière, qui est encore au bord de cette condition.
Nous pourrions parler du Nigeria, par exemple.
Et le Nigeria, bien entendu. Tout le nord du Nigeria est devenu une société guerrière. Alors, y a-t-il un plan de la dite communauté internationale pour résoudre cette pathologie?
Un traitement des nouvelles guerres, ce que vous appelez
voilà.
Un traitement des nouvelles guerres.
Un plan thérapeutique, dirait un médecin. Est-ce qu'il y a un protocole qui est mis en place? Je constate que personne même ne se pose cette question. D'ailleurs, j'ai employé plusieurs fois le terme de société guerrière, je l'emploie dans ce livre. Ça n'a jamais fait réagir. C'est épouvantable, la société guerrière. Ça veut dire que c'est une société dans laquelle l'économie dépend de la guerre, la protection sociale dépend de la guerre, l'éducation dépend de la guerre, la survie dépend de la guerre. C'est de la folie. C'est de la folie.
L'état de guerre permanent.
C'est ça. Et le fait que finalement, tout le monde y trouve, en quelque sorte, un motif de satisfaction. bien entendu les entrepreneurs de violence que je désignais tout à l'heure, mais ces jeunes désœuvrés sans emploi, mais ceux qui sont laissés pour compte et n'ont pas de protection sociale et qui viennent trouver auprès des entrepreneurs de violence des prestations sociales qui sont pour le moins douteuses mais qui fonctionnent, et puis aussi toutes ces bandes mafieuses qui se régalent.
Et c'est pour ça qu'il y a un secteur qui est particulièrement florissant aujourd'hui, c'est celui de la vente d'armes, des ventes d'armes. Hein. Je pense notamment à l'article d'Olivier Zajac dans l'État du Monde, les ventes d'armes comme vecteur d'influence dans les relations internationales. Et quel vecteur ?
Absolument, souvent d'ailleurs promu par des États qui se présentent comme les grands promoteurs de la paix. Mais les ventes d'armes, c'est très choquant. Mais je dirais, les causes sont encore plus choquantes. Les armes, c'est un moyen de répondre à quelque chose. Regardons les racines. Regardons les racines du mal.
Merci Bertrand Badi. L'État du Monde 2015 s'intitule Nouvelle Guerre. Donc, il est publié aux éditions La Découverte. C'est un instrument très précieux pour quiconque s'intéresse aux relations internationales, comme chaque année. Donc là, c'est donc le thème de ces nouvelles guerres qui est mis en avant dans votre analyse, dans la préface de ce livre. Merci Bertrand Badi.
Merci à vous.
Une semaine d'actualité réalisée par Vanessa Rovensky, à podcaster sur le site de la radio, www.rfi.fr. Je vous retrouve demain pour le magazine Idée. Nous parlerons d'un intellectuel qui a marqué la seconde moitié du XXe siècle, Cornelius Castoriadis, qui a été économiste, philosophe, psychanalyste et militant politique. Nous serons en compagnie d'un historien des idées, François Dos, qui vient d'écrire une biographie de cet intellectuel. Demain dimanche, 17h10, heure de Paris. Bon week-end, bonne semaine. Dans un instant, un nouveau journal sur RFI.